7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, un peu de place pour l'imagination, les histoires et les héros. Le Salon du Livre de Jeunesse de Montreuil, qui a démarré hier, révèle comme chaque année son foisonnement d'ouvrages pour les enfants et les adolescents. Il y en a pour tous les goûts. Ou presque, des personnages cruels, drôles, intrépides, généreux. Mais dans le fond, les enfants ont-ils besoin de héros qui leur ressemblent? Couleur de peau, sexe, culture? La figure du héros a-t-elle besoin de se diversifier pour aider les enfants à construire leur propre identité? Nous allons en parler avec nos invités, auteurs de littérature jeunesse, Laurane Safou, bonjour.
Bonjour.
Laurane Safou, comme vous publiez Comme un million de papillons noirs, vous n'étiez pas d'ailleurs au départ une auteure de littérature jeunesse?
Pas du tout.
Hein, vous allez nous raconter un peu votre parcours. Madina Guiss, vous aussi d'ailleurs, vous n'êtes pas une auteure de littérature jeunesse au départ.
Hein. Non, pas du tout. Par contre, c'est Guisset.
Oui, Guisset, pardon. Madina Guisset, vous publiez Neiba, Je sais tout ou presque. En fait, c'est le début d'une série puisqu'il y a déjà deux tomes sont sortis, probablement d'autres.
On espère.
Également avec nous Delphine Solière-Dizarni. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef aux éditions Bayard Jeunesse, directrice des magazines pour les enfants de moins de 12 ans et vous supervisez la filiale Afrique Planète Mag de Bayard Afrique qui publie Planète J'aime lire. Alors, vous nous direz comment sont conçues ces offres pour le public et le continent africain. On sera également en ligne avec Céline Hain à propos du prix de la littérature jeunesse décerné par l'UNICEF. Et puis, dans un autre registre que la littérature, mais toujours sur la question des identités, on entendra Yeni Djidi, une mère de famille blogueuse qui dessine des livres de coloriage pour valoriser les tenues traditionnelles du continent africain. Gros succès, elle se fait même connaître aux États-Unis. Et quant à vous, les voisins et les voisines, quels sont les héros, les héroïnes aussi qui ont peuplé vos rêves d'enfants? Appelez-nous pour les faire revivre, ces héros et ces héroïnes, et les partager avec le recul. Est-ce que vous savez pourquoi vous parveniez à vous identifier à eux? C'est souvent une question difficile hein, à trancher. En tout cas, vous nous appelez au 33 1 84 22 71. C'est aussi le numéro de téléphone WhatsApp pour nous laisser des messages. Alors, ne laissez pas de messages audio, on vient de démarrer le direct. Appelez-nous, on a envie de dialoguer avec vous et puis de replonger dans votre enfance. Ça fait tellement de bien parfois. Je vous lis quelques messages, évidemment, que vous pouvez commenter. Souleymane à Koudougou au Burkina Faso nous dit « Mes héros à moi, c'était papa et maman. Ça me galvanisait quand l'un d'eux me disait « Tu es mon fils ». Mon objectif, c'était de dépasser le niveau que mon papa avait atteint et d'avoir l'esprit de grandeur de ma maman. Ce sont les deux étoiles qui m'ont poussée à avancer. Mais c'est vrai aussi que quand on n'a pas forcément eu de livre à disposition, on se fabrique les héros que l'on a autour de soi et qui peuvent être évidemment tout aussi puissants, même si plus réalistes. Hein, quoique, Bouna nous dit qu'enfant, il lisait des bandes dessinées. J'étais fascinée par Zembla et Raon, inspirés de Tarzan, qui évoluait dans une jungle. Qui se rapprochait, vous aussi, ouais. Mmh. Ouais. Qui se rapprochait de la savane sahélienne que je connais, nous dit Bouna. Et un jour, j'ai dit à des camarades de classe que je voulais jouer à créer des aventures. Elles se sont moquées de moi. Adolescent, j'ai commencé à m'intéresser à la littérature. J'aimais aussi Docteur Justice. Bon, Docteur Justice, c'est un médecin humanitaire qui débarque dans chaque aventure à bord d'un avion. Il est super fort en judo et karaté. Moi, je ne connaissais pas non plus.
Non,
on a fait des petites recherches parce que moi non plus, je ne connaissais pas. Et ce que je préférais acheter, nous dit Bouna, c'est avec mon propre argent, c'était Pif et Hercule et Pif Gadget, évidemment. Voilà. Alors, évidemment, en fonction de ce que lisaient les... Pardon, vous n'avez pas entendu Delphine Solière-Dizarni? Parlez bien devant le micro.
Oui, c'est amusant parce que moi, effectivement, avec mon argent de poche, avec mon frère, on se cotisait pour acheter Pif Gadget et découvrir ces bandes dessinées. Vous citiez Raon, ce sont des personnages qui, effectivement, vivaient une vie complètement aventureuse.
Oui. Et alors là, pour le coup, complètement différente de la plupart de celles des lecteurs. Hein, franchement, il faut bien reconnaître, ce qui n'empêche pas de se plonger dans leur imaginaire quand l'imaginaire est bien construit. Et voilà, et il nous dit, bien sûr, pour conclure, Bouna, que évidemment, les gadgets nous rendaient aussi très créatifs. Appelez-nous maintenant, parlez-nous de ces héros, de ces héroïnes qui ont peuplé votre enfance par les livres, mais pas seulement. Ça peut être aussi par les contes, par des histoires orales, par des films ou autres, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Et les enfants aujourd'hui ont-ils besoin de héros qui leur ressemblent? On attend vos appels.
Je suis Batman.
J'étais sympa. Tu m'as pris en photo, je t'ai signé des bouts de papier et n'en plus finir, mais
oh
ça...
Oh non, non, non. T'as même pas besoin de me former. Je connais toutes tes ruses, ton style acrobatique, ta phrase favorite, tous tes secrets.
Oh, c'est incroyable. Ces nouveaux pouvoirs vont faire de moi...
un super-héros.
Et je vais devenir le protecteur des innocents, le défenseur de la paix mondiale.
Je suis ton plus grand fan.
Quoi que puisse me réserver la vie... jamais je n'oublierai ces mots. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'ai reçu là un don, une malédiction. Qui je suis ? Je suis Spider-Man.
Ouais, bah je sais pas pourquoi le mot héroïne colle mal quand même avec l'image que l'on se fait du héros. Il suffit d'entendre ce qu'on vient d'entendre, non ?
Mmh. Ah bah c'est sûr que quand on parle de... Mais là, on est sur des super-héros. Et c'est vrai que les super-héros...
super puissants.
Sont super puissants, ils sont super forts et ils sont super hommes, quoi. Mais... mais Dieu merci, il y a des héros qui sont enfin on propose aussi autre chose et puis là c'est tout un univers Marvel. Après il y a des femmes hein, c'est sûr hein.
Oui, parce que j'ai quand même l'impression que aujourd'hui il y a pas mal de productions, que ce soit dans les séries ou films ou même bandes dessinées, qui veulent répondre à ça. Ouais, je pense à Superwoman aussi, oui, qui est sortie, Wonder Woman, voilà, ouais. Ou Wonder Woman aussi. Il y avait aussi Superwoman qui est sortie il y a quelques mois
sur Netflix. Tout à fait, excuse-moi, ouais, t'as raison.
Qui était d'ailleurs au départ une vieille série des années 70,
c'est ça, c'est
80. Le avec qui vous avez grandi respectivement comme héros, héroïne, pas forcément super puissant d'ailleurs, Madina Guy, c'est
moi j'ai beaucoup grandi avec le petit Nicolas, puis fait Hercule, mais plutôt en dessin animé. Là j'avais la chanson qui me parlait dans ma tête quand
alors
vous
on
l'avez
va redire le petit Nicolas.
Le petit Nicolas, c'était un roman jeunesse qui a été écrit et dessiné par Goscinny, me semble-t-il. Et c'était un petit garçon qui était hyper touchant parce qu'il avait une vision sur le monde. Il apportait sa vision sur le monde. C'était un petit garçon de 9 ans dans les années 60-70, parce que les prénoms de ses amis c'était quand même très ancré dans ces époques-là, Alceste et d'autres. Et c'est un petit garçon du coup qui nous racontait un petit peu ces anecdotes très classiques de la vie de tous les jours, mais avec un regard d'enfant. Et du coup ça rendait le tout très succulent, et puis on pouvait vraiment s'identifier, quoi.
Et vous, Delphine Solière d'Izarni?
Alors moi j'ai grandi en Éthiopie, figurez-vous, à une époque où il y avait extrêmement peu de livres jeunesse. Déjà il y avait peu de production, déjà il y avait rien quasiment en Éthiopie, et très peu de choses arrivaient. Donc je recevais le magazine Pomme d'Api, dans lequel il y avait David et Marion, qui m'ont appris à peu près à tout faire. Et puis j'avais droit de temps en temps à quelques Caroline, qui arrivaient par la valise diplomatique, que je pouvais lire. Mais je rejoins tout à fait le témoignage que vous avez lu tout à l'heure, parce que du coup, nous nous sommes inventés beaucoup de héros, particulièrement avec mon frère qui est juste derrière moi, et on a créé beaucoup de personnages
plus africanisés du coup, du fait que vous étiez dans un environnement africain.
Très probablement, surtout que ce qui est intéressant c'est que les enfants petits, en tout cas avant 7 ans, n'ont pas forcément conscience de leur couleur de peau. Et je me souviens parfaitement de la première photo de classe où j'étais la seule blonde, parce que je suis très blonde, vous ne me voyez pas mais je suis très blonde, et j'étais dans une école franco-éthiopienne et j'apprenais l'amharique, et je me suis vue blonde en fait. Je n'avais pas conscience de ma couleur de peau comme ça, et j'ai beaucoup pleuré parce que je voulais me peindre les cheveux.
Oui, pour ressembler aux autres, pour vous fondre dans la masse. Laurent Safou, vous, avec qui vous avez grandi?
Moi, j'étais une très très grande fan de Tom Tom et Nana. Une extrême grande fan. Pareil, Piffé et Hercule aussi, le dessin animé me parlait. J'étais extrêmement fan. Mais j'ai surtout, j'étais surtout une grande mordue de BD. Et au fur et à mesure, c'est vraiment avec des j'aime lire que j'ai vraiment commencé. Je me suis vraiment familiarisée en fait avec des histoires en tant que telles.
Ouais, pour ceux qui n'ont pas connu Tom Tom et Nana, un petit rappel.
Pourquoi tu te mets une passoire sur la tête?
Une passoire? Idiote! C'est mon home de pro-chevalier.
Ah, tu vas devenir pro-chevalier?
Pour la grande fête de l'école, on va jouer une pièce de théâtre géniale.
Bah, alors moi, je peux faire le dragon noir?
Pas question!
Pourquoi? Je sais très bien faire le dragon. À l'école, j'ai fait plein de dragons.
Est-ce qu'avec le recul, vous savez les unes et les autres, pourquoi vous vous êtes identifié davantage à telle héroïne ou tel héros plus qu'un autre? Je vous pose la question en particulier à vous, Laurent Safou, Madina Guisset, parce que vous avez grandi à une époque où, rétrospectivement aujourd'hui, c'est tout votre discours et l'intérêt de vos livres qui sortent. C'est, vous avez regretté de ne pas avoir de héros ou d'héroïnes qui vous ressemblaient ou pas? Est-ce que ça a été un problème pour vous, l'identification? Oui, Laurent Safou.
Clairement, pour moi, oui, dans le sens où autant, en fait, je me raccrochais à des thèmes qui étaient assez génériques, c'est-à-dire Tom Tomenana, c'est un grand frère et sa petite sœur, donc je faisais l'écho avec mes petits frères et sœurs aussi moi-même, et parfois c'était aussi surtout par des histoires drôles, en fait, que j'arrivais pas forcément à m'identifier, mais du coup à trouver une porte d'entrée dans ce qui ne me ressemblait pas. Mais quand on passe des années finalement à ne pas se voir, et que ça se prolonge jusqu'au collège, puis jusqu'au lycée, où on va de plus en plus dans la littérature et on ne se voit toujours pas, on a tendance à se dire...
On ne se voit toujours pas, c'est-à-dire on ne voit pas de héros qui ont la même couleur de peau que vous, on ne voit pas de héros et d'héroïnes noires.
D'héroïnes noires ou surtout d'héroïnes noires vivant en France, parce que parfois si on en voit, c'est toujours dans un contexte soit...
Vous pensez à Kirikou ?
Oui, je pensais notamment à Kirikou, mais alors Kirikou qui est...
Alors Kirikou, pour vous, c'était pas possible de vous identifier ?
Bah, déjà parce qu'on est quand même dans cet imaginaire de savane et moi je vivais à Orléans, donc c'était pas le même quotidien. Et puis surtout, oui, parce qu'on a l'impression finalement qu'on est un peu différent.
Kirikou était un immense succès auprès des enfants en France, qui n'ont jamais mis les pieds sur le continent africain et qui ne connaissaient rien à part l'imaginaire de la savane.
Alors nous, c'est vrai que quand Kirikou est arrivé, vous ne voyez pas, mais on n'est pas toute jeune non plus. Et du coup, quand Kirikou est arrivé, nous on était quand même déjà, on avait une vingtaine d'années déjà, en tout cas pour ma part. Hein. Donc moi, c'est sûr que à mon époque, quand moi j'avais l'âge de lire des romans jeunesse, il y avait rien.
Il y avait Martine, cette petite fille modèle qui fait absolument tout bien, qui a toujours une garde-robe époustouflante et qui il y a jamais un cheveu qui dépasse.
Exactement. Mais il y avait aussi il y avait des héros plus subversifs, Tom Tom et Nana. Je pense que, enfin, moi aussi j'ai grandi avec Tom Tom et Nana et j'ai grandi avec les histoires de J'aime lire. Mais Tom Tom et Nana, faut les voir, c'est quand même très populaire, quoi. Je veux dire, leurs parents, ils tiennent un restaurant, ils travaillent beaucoup. Donc, quelque part, si on pouvait s'identifier à des personnages, c'était eux, les plus proches de nous, quand même. Clairement, clairement.
Avec une vie quotidienne qui ressemble à celle de beaucoup d'enfants.
Exactement.
Mais est-ce que la France, aujourd'hui, a du retard, Delphine Solière-Dizarni, dans sa façon de penser la diversité dans ses créations, si on compare avec un pays comme les États-Unis ?
Alors, certainement, en tout cas pour un certain nombre d'éditeurs, ça devient une démarche volontaire. Chez nous, ça l'est.
C'est assumé.
C'est complètement assumé. Et alors, c'est assez amusant parce que nous avons une édition de J'aime lire au Québec et où la question de la diversité est très forte. Mmh. Et la rédactrice en chef de J'aime lire Québec fait partie de notre comité de lecture. Elle nous rappelle en permanence cette question de la diversité. C'est même devenu un running gag à chaque comité de lecture.
Alors, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a des quotas ? Ça veut dire qu'est-ce qu'on...
Alors, nous, on
ne
veut pas de quotas.
À chaque fois.
Non, nous, on veut pas de quotas. Par contre, on essaye
mais
quand même...
Mais qu'est-ce que vous entendez par diversité dans le comité de lecture ?
Il y a deux choses. Il y a la représentation de l'enfant. Et là, je vous rejoins complètement. Et d'ailleurs, j'ai apporté, vous ne pouvez pas les voir, mais différentes histoires où nous faisons extrêmement attention à montrer une vraie diversité de couleur de peau.
Sans que ça soit le sujet des histoires, d'ailleurs.
Sans que ce soit le sujet des histoires, voilà. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de chercher... dans nos histoires que nous allons publier, quelque chose d'invariant sur l'enfant que nous allons mettre en scène et dans nos héros, qui est quelque chose dans lequel chacun puisse se reconnaître.
C'est ça, des histoires universelles, mais avec des visages, des physiques d'enfants à l'échelle de la planète, finalement.
Exactement, et c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup avec le directeur artistique. Et je pense que, voilà, je vous ai apporté la rentrée folle de Boubacar, mais c'est un enfant... c'est un enfant, en fait. Simplement, il s'appelle Boubacar parce qu'aujourd'hui, dans une classe en France, on a tous les types de prénoms et toutes les couleurs de peau. Et je trouve que c'est très important de montrer cette diversité-là.
Ouais. Mais si on reprend l'exemple des États-Unis, dans la communauté africaine-américaine aux États-Unis, Madina Guisset, est-ce qu'elle vous a inspiré dans la façon de vous emparer de cette thématique-là ?
Oui et non. En fait, on s'inspirera, on s'est beaucoup inspiré, nous, en tant que jeunes afro-descendants en France, de ce que pouvait faire un peu la communauté afro-américaine. C'est un petit peu le grand frère ou le cousin germain qui nous a un peu guidés, parce qu'il était beaucoup plus âgé que nous. Mais aujourd'hui, on a quand même une véritable volonté de faire avec nos histoires à nous. Parce que nous, nos parents, pour la plupart des afro-descendants, ils sont nés en Afrique. Mmh. Et donc, du coup, ça donne un regard complètement différent sur notre manière de vivre notre négritude en France. Du coup, oui, on s'est inspiré de leur énergie, mais alors après, dans la manière de traiter les histoires, je pense que c'est forcément un peu différent. Mmh. Moi, je rejoins Delphine quand elle dit que c'est important d'avoir des personnages noirs qui sont juste en train de vivre leur vie, quoi. C'est l'histoire
et
de Nayar.
Et de vivre l'altérité en même temps, d'être différent.
C'est ce que j'allais dire. C'est qu'effectivement, l'idée, c'est de présenter des personnages différents, mais...
En tout cas, physiquement différents.
Oui, physiquement différents, mais de toute façon, je veux dire, dès lors où on a une double culture, il y aura forcément parfois une perception de la vie qui est différente, et c'est ça aussi que je trouve intéressant. C'est bien de, entre guillemets, colorier le visage, mais c'est bien aussi d'aller encore plus loin et de montrer que quand on est un jeune afro-descendant, quand on est on a des parents d'origine du Maghreb, on apporte aussi son lot d'histoire et sa vision qui est différente mais enrichissante, et en même temps on vit la vie d'un enfant de 9 ans en France.
Et je pense que c'est pour ça aussi que ces singularités qui sont propres au fait d'être afro-descendant, par exemple, c'est ce que j'ai voulu explorer avec Comme un lion de papillon noir, donc Adé, cette petite fille noire qui n'aime pas ses cheveux suite à des moqueries et qui va demander à sa mère qui va dire à sa mère je n'aime pas mes cheveux, va réapprendre justement ce rapport à ses cheveux en demandant à des amis à elle, autour d'elle, qui sont de carnations différentes, de coiffures différentes, parfois de physiques différents, va demander à des tantes aussi comment en fait on aime ses cheveux comme des papillons ou ce genre de choses. Et finalement, c'est une histoire d'une petite fille par rapport à ses cheveux crépus, mais c'est aussi une histoire qui peut parler pour quelqu'un qui est victime d'harcèlement scolaire, quand on est victime de moquerie. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un quotidien, ou du moins une expérience singulière du fait d'être afro-descendant, que ça ne peut pas parler.
Expérience singulière, d'ailleurs, pas partout, hein, parce qu'il y a quand même de nombreuses villes en France et des quartiers où la singularité n'existe pas, tellement les écoles, les classes sont ultra, ultra métissées. 7 milliards de voisins, les enfants ont-ils besoin de héros qui leur ressemblent, même sexe, même couleur de peau, même culture, même époque? Et vous, les voisins avec qui vous avez grandi, appelez-nous pour nous parler de vos héros et de vos héroïnes qui ont peuplé votre enfance. 33 1 84 22 71 71, on attend vos appels.
L'enfant nu, l'enfant noir. Kirikou, kirikou, l'enfant noir, l'enfant nu. Kirikou, kirikou, l'enfant noir, l'enfant nu. Enfant, mais pas naïf, petit, mais pas craintif. Il pense à chaque fois, puis il fonce dans le tas. Il n'a pas de gris-gris, il n'a pas de fusil. Il arrive quand même à sauver ce qu'il aime.
Ici, C'est Youssou N'Dour, Kirikou, évidemment, les films de Michel Oslo qui ont évidemment suscité des débats. On en parlait il y a quelques minutes puisque nous évoquons la question de l'identification. Les enfants ont-ils besoin de héros et d'héroïnes qui leur ressemblent pour grandir, pour construire leur identité? On en discute avec deux auteurs. Maintenant, vous êtes aussi auteur de jeunesse puisque vous avez toutes les deux commis un livre. Laurent Safou, Madina Guisset, Neiba, je sais tout, un portable dans le cartable. Ça, c'est le deuxième tome pour vous. Madina Guisset, Laurent Safou, comme un million de papillons noirs. On va bien sûr reparler de votre démarche, comment vous avez travaillé, comment on trouve un éditeur, une illustratrice ou un illustrateur, parce que pour les livres pour enfants, la question du dessin, de l'image, c'est central. Mais bien sûr, on vous donne aussi la parole. Avec qui avez-vous grandi, les voisins et les voisines, des héros sur papier, dans les contes, à la télévision, au cinéma? Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Stéphane nous appelle de Libreville au Gabon. Bonjour Stéphane.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes le bienvenu. Alors vous, qui avait-il dans vos rêves d'enfant?
Alors moi je voudrais venir ici pour parler vraiment de mes débuts dans la lecture.
Ouais.
J'ai appris à lire à peu près au CP.
Oui.
Et je me rappelle qu'on nous, apprenait à lire avec un gros bouquin. Le titre était Banica Scrooge, donc une grosse dame sur une moto qui dormait sur la lune et qui rendait, elle avait un peu une vie de routarde en fait.
Ouais.
Et elle rendait beaucoup de services.
D'accord. Et elle dormait sur la lune, oui.
Elle dormait. Elle avait D'accord. une longue échelle qu'elle prenait tous les soirs pour dormir. Sur
ah ouais, hyper réaliste, hein. Et c'était un manuel de lecture en même temps, si j'ai bien compris, Stéphane.
Oui, effectivement. Et il fallait qu'on lise justement une page par jour par élève.
Ouais.
Et moi, ça m'embêtait tellement que je restais après les cours, le temps qu'on vienne me chercher à terminer tout le livre. Et je l'ai terminé très rapidement, en fait.
Ah oui, c'est-à-dire que et ça vous embêtait qu'il n'y ait qu'une page à lire.
Ça m'embêtait qu'il n'y ait qu'une page, en fait. Donc, il fallait que... Bref. Et j'ai tout terminé.
D'accord. Et ensuite, alors du coup, vous avez eu accès à d'autres livres pour enfants ou pas tellement, Stéphane? Je ne sais pas dans quel pays vous avez grandi, d'ailleurs.
À Libreville, au Gabon.
D'accord. Hein. Et ensuite, alors est-ce que, parce que là, c'était de la lecture obligatoire. Il se trouve que vous, vous avez été séduit, mais on n'est pas forcément, c'est pas la même démarche, hein, la lecture obligatoire à l'école.
Oui. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que ça a éveillé vraiment mon sens pour la lecture. Et après, mon père travaillait dans un centre de lecture.
Ah.
Et je crois qu'une fois, je suis allé à la bibliothèque et j'ai tout lu. J'ai lu tous les Tintins, tous les Billy Bull, tous les contes de Grimm.
Oui.
Je crois que j'ai lu toutes les bandes dessinées de la bibliothèque à cette époque-là.
Ah oui, incroyable. Et alors, donc vous, vous êtes Gabonais, Stéphane?
Oui.
Vous avez la peau noire?
Oui.
Non, mais je vous pose la question. Parce que, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes interrogé, enfant, sur le fait que les héros ne vous ressemblaient pas physiquement? Alors, pas pour Mamie Casse-Croûte, hein, je présume, qui avait été, dont l'histoire avait été élaborée pour un public d'élèves en Afrique, mais pour les autres héros. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes posé cette question de l'altérité? Est-ce que, du coup, l'identification devenait une question ou pas du tout? Ça a l'air de vous surprendre. Ça a l'air de vous surprendre,
oui,
que je vous pose cette question.
Oui. Je ne me suis jamais posé l'identification par rapport à la ressemblance physique, mais plutôt en termes de comportement. Je prenais ça en termes d'exemple, par exemple.
Ouais.
C'était plus en termes d'exemple, de modèle à atteindre, ce que je voulais être plus tard. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé.
C'est ça, sur les actions en fait des héros. Hein. C'était là-dessus qu'il y avait identification possible. C'est intéressant, merci beaucoup de nous avoir appelé Stéphane. Est-ce qu'il y a des invités qui veulent réagir ou poser des questions à Stéphane? Je ne sais pas. Non? Laurent Safou? Non, parce que je voyais... Merci en tout cas Stéphane de nous avoir appelé. Bien sûr, vous continuez de nous téléphoner au 33 1 84 22 71 71. Quand on est enfant, en fait, la démarche de se poser la question « est-ce que je m'identifie, est-ce que je ne m'identifie pas ?»« Pourquoi et comment ?» cette question-là, elle n'existe pas dans la tête d'un enfant, très honnêtement. Et...
Non, moi je suis plus mitigée quand même, ouais, parce que je pense que quand on est racisé dans un pays où on n'est pas en majorité, on se pose très vite la question, on nous la pose aussi très vite, en nous demandant mais t'es de quelle origine, mais pourquoi t'es noir, enfin moi je...
Et ça commence en primaire.
Ça commence dès la maternelle, enfin vraiment, moi j'ai pas attendu la primaire pour comprendre que j'avais la peau noire. Et après, c'est vrai que quand on le dit, il y a une espèce de distorsion parce qu'on aime le livre. Quelque part on accepte le fait de pas s'identifier, mais quand les premiers dessins animés ou les séries, moi je me souviens quand il y a eu le Prince de Bel-Air à la télé, j'avais 9 ans, j'étais pas dans la cible, j'aurais pas dû regarder ce genre de série, et pourtant moi j'ai trouvé ça génial parce que là j'ai compris qu'il y avait un problème dans mes livres, parce que je me suis dit ah mais c'est trop bien, il me ressemble et c'est ma vie et je trouve ça génial, mais je voyais pas ça dans les livres. Donc quand même quelque part très tôt on se dit il y a un problème, mais quelque part c'est comme ça, donc on l'accepte et on continue à lire.
Et l'exemple aussi que j'aime bien donner, c'est tout simplement même pendant le carnaval en primaire, il y a cette démarche de s'identifier à un héros ou une héroïne.
Dans les déguisements.
Et moi, je me rappelle très bien, alors la majorité des héroïnes, c'était des princesses Disney. Et l'exemple que je donne souvent, c'était que Pocahontas, c'était en termes de carnation la plus proche de moi. Mm-hmm. Or, je ne suis pas amérindienne. et donc déjà, vous êtes là en tant qu'enfant, vous ne trouvez pas de costume, en fait, qui correspond à un héros que tout le monde connaît et où personne n'aura à vous demander, mais en fait, c'est quoi ton déguisement, tu corresponds à qui, parce que il n'y a pas de héros ou héroïne noire.
Enfin, c'est en train de changer.
À l'époque.
Delphine Sauliard-Dizarni, est-ce que l'action des héros n'est pas davantage au cœur du processus d'identification que leur ressemblance, le pays dans lequel ils vivent, la langue qu'ils parlent, la culture à laquelle ils appartiennent?
En fait, il y a un croisement entre les deux, c'est-à-dire que le héros, il devient un héros, il n'est plus un personnage, mais devient un héros quand il a une force à lui tout seul, quel que soit le contexte dans lequel ils vivent. Donc ça, c'est quand même très important.
Peut être une force de résilience, par exemple.
Qui peut être une force de résilience.
Je vais prendre une héroïne très, très, très désuète, Les Malheurs de Sophie. Les enfants ne s'identifient pas à elle en tant que petite fille maltraitée par une belle-mère horrible au 19e siècle dans un château.
Il y a une
grande force dans cette héroïne.
Tout à fait. Je vais prendre un autre exemple à l'inverse, qui est en France, deux héroïnes, parce qu'il y a une grande sœur et une petite sœur, Aya Diopougon, qui est publié par Gallimard Jeunesse, et sa petite sœur Akissi. Enfin, je dis petite sœur, vous comprendrez, c'est pas sa sœur charnelle, mais que nous publions dans Planète Jamelir, notre magazine pour l'Afrique francophone. Et ces deux héroïnes font un carton en France. Et énormément d'enfants, en fait, se sont identifiés un peu, si je prends Akissi, un peu à la façon Tom Tom et Nana, parce que c'est une héroïne qui, bien qu'elle vive dans la banlieue d'Abidjan, Elle porte en elle la transgression, la petite insolence de l'enfance, tout en étant, ce qui est très fort, dans son contexte culturel à elle, parce que le rapport aux parents d'Akissi, aux frères et sœurs, n'est pas le même que chez nous, dans une bande dessinée.
L'insolence, la subversion, ça c'est vraiment l'action qui est quand même souvent au cœur des héros et des héroïnes, quelle que soit leur couleur de peau, la culture, je sais tout dans cette série-là. Madina Guissé, un portable dans le cartable, il y a à la fois la volonté de lutter contre une forme de racisme à l'école, mais en même temps, il y a un petit peu de subversion quand même.
Oui, il y en a beaucoup. Puis même dans son caractère, elle est un peu...
Elle pique pas le téléphone de son père, semble-t-il.
Si, c'est ça.
Parce qu'évidemment, ses parents lui disent non, tu n'auras pas de téléphone.
Exactement,
à 9 ans.
Exactement, et elle se débrouille pour en avoir un, mais de manière pas très sympa. Mais c'est vrai que, oui, je pense que la transgression, etc., moi j'ai beaucoup aimé les personnages comme ceux-là. Et Les Malheurs de Sophie, au-delà du fait qu'elle soit maltraitée, parce que je l'ai relue en étant plus grande.
Alors, c'est que c'est une petite fille qui fait beaucoup de bêtises.
Exactement.
Qui se fait beaucoup maltraiter par sa belle-mère.
Exactement. Mais c'est vrai qu'elle fait beaucoup de bêtises et en fait, elle les faisait à notre place, en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'on l'aimait bien. Et Naïba, elle a un peu ce côté-là. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu Les Malheurs de Sophie, mais en les relisant, j'ai vu un peu les similitudes entre les deux. Je me suis dit que forcément, ça m'avait forcément beaucoup touchée et que j'avais retenu ça. Mais la transgression, c'est hyper important quand on est petit parce qu'on préfère regarder l'autre faire des bêtises et se faire engueuler, puis nous on reste...
Mais la transgression aussi pour survivre dans un monde qui n'est pas toujours tendre.
Oui, tout à fait.
Alors toutes les deux, Laurent Safou et Madina Guissé, vous avez choisi délibérément, puisque c'est vos premiers livres là, en tant qu'auteur de jeunesse, c'est pas vos métiers respectifs, vous avez choisi quand même délibérément de parler de l'altérité et du racisme quand même au cœur de vos histoires. Pour vous, Laurent Safou, Comme un million de papillons noirs, ça parle de cheveux crépus et ça parle du racisme. Mmh.
Oui, clairement, puisque alors c'était surtout aussi répondre aussi à un contexte dans la littérature jeunesse où la manière dont sont mis en avant des personnages afrodescendants est soit un peu déconnectée de la réalité, c'est-à-dire que très souvent on a un personnage afrodescendant qui ne s'aime pas pour parler de racisme, mais le s'aime pas vient d'où, on ne sait jamais. Donc là, je voulais vraiment prendre justement des anecdotes qui arrivent à beaucoup de petites filles noires, à savoir qu'on arrive à l'école, on a les cheveux crépus et qu'on est dans une classe majoritairement blanche, on est la personne différente et on peut recevoir des petites moqueries en fait sur notre aspect. Donc c'est le cas d'Adé qui va du coup chercher à comprendre auprès de ses parents, puisque c'est souvent vers là où on se tourne, pour comprendre pourquoi elle serait différente et réaliser que ses cheveux sont beaux aussi.
Vous semblez dire finalement que vous, en tant qu'écrivain afro-descendante, comme vous vous présentez, vous avez la possibilité d'être plus précise, d'aller plus loin, d'appuyer davantage là où ça fait mal par rapport à un auteur de littérature jeunesse.
Je pense que c'est surtout puisé dans mon expérience en fait, c'est-à-dire que c'est une expérience que je n'ai jamais vue aborder en tant que telle en littérature jeunesse et que j'ai la possibilité de le faire et que ça fasse écho autant à des petites filles noires qu'à des petites filles qui ne le sont pas
En même temps, dans la littérature, un écrivain a le droit absolu d'écrire sur ce qu'il n'a pas vécu, on est bien d'accord.
Je suis complètement d'accord.
Flaubert n'aurait pas écrit Madame Bovary, sinon il n'a jamais été Madame Bovary, on est bien d'accord.
On est complètement d'accord, mais en fait, ce que disait Laura, c'est que finalement, nous, en tant qu'afrodescendants, ce n'est pas un droit qu'on s'octroie en disant « moi, j'ai le droit de prendre la parole et puis personne d'autre ». Ce n'est pas ça, mais c'est juste que, oui, typiquement,
il y a de plus en plus de héros.
Oui, bien sûr, et puis il y a de plus en plus de héros gros, en surpoids, etc. On voit tout de suite quand c'est traité par un auteur qui, lui, a vécu ça et par un auteur qui ne l'a pas vécu. Je pense qu'effectivement, l'expérience apporte une lumière supplémentaire dès lors où c'est le héros principal et le sujet principal, c'est la grossophobie. Vous voyez ? C'est-à-dire que si on n'est pas sur ce sujet principal-là, eh bien évidemment, la beauté du métier de l'auteur, c'est qu'on peut créer différents personnages, aller chercher des témoignages, etc. Mais quand c'est le sujet principal, le fait que la personne l'ait vécu, ça apporte quand même toujours quelque chose qui est indéniable. Ah, bien sûr, pour moi.
Pour vous, c'est une littérature à message, ce que vous écrivez toutes les deux ?
Moi, je dirais oui, mais alors...
Oui et non, dans le sens où, oui, ça va parler pour ceux qui ont besoin de ce message, pour des personnes en fait, qui n'ont jamais vécu, qui vont découvrir quelque chose.
Ouais. Comme un million de papillons noirs, c'est une jolie histoire, d'ailleurs, pour les mamans, quand elles ont leur petite fille qui revient de l'école et qui dit « oui, on se moque de moi parce que j'ai les cheveux crépus ». Là, c'est l'histoire d'une maman qui invente une histoire complètement farfelue pour que sa fille apprenne à aimer ses cheveux, que ce sont des cheveux qui font naître des papillons. Donc, on reste dans l'imaginaire et cette petite fille va s'emparer de cet imaginaire qu'elle va croire réel fin d'ailleurs.
Clairement, et je pense aussi que c'est la force de la littérature jeunesse en fait, c'est que bien sûr il y a ces questions d'identification qui va faire qu'en tant qu'enfant on va chercher à le rattacher à notre réel, mais on cherchera toujours un peu de rêverie puisque c'est ça qui va nous faire lire le livre et qui va nous donner envie de suivre que ce soit les aventures de Neiba dans la manière de transgresser un petit peu les règles données par ses parents, ou que ce soit Adé qui n'est pas très sûre d'elle et face à sa mère, il veut juste être rassuré.
Jimmy nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Jimmy nous appelle de Paris, je crois. Bonjour Jimmy.
Bonjour Emmanuel.
Jimmy, vous avez 48 ans et vous êtes originaire de Madagascar, c'est ce que vous avez dit au standard ?
Oui, c'est ça.
On vous écoute Jimmy, vous êtes le bienvenu.
Bon, en fait, bonjour. En fait, ce qui m'a marqué avec l'émission là qui se passe directement, c'est mon héros, c'est Kouakou, en fait. Un livre de Kouakou qui raconte une histoire, un enfant qui vivait dans la brousse. Et là, quand on a lu ça, quand j'ai lu l'histoire et tout ça, en fait, ça m'a appris quelque chose parce que l'enfant, il est droit déjà, il essaie de vivre, il essaie d'aider les parents. En fait, il montre la vie de tous les jours, quoi. Et ça m'a bien marqué, ce livre-là, c'est Kouakou.
Alors, qui connaît ce héros-là ?
Moi,
je ne le connais pas.
Je ne connais pas non plus.
Vous dites bien Jimmy Kouakou ?
Oui, c'est Kouakou, oui. Il y a Kirikou.
D'accord.
Kirikou,
non, on est bien d'accord. Ce n'est pas Kirikou. Voilà. Hein. D'accord.
C'est Kouakou.
Et c'est un livre que vous avez lu où, dans quel pays ?
À Madagascar.
À Madagascar, d'accord.
Oui, c'est un visiteur à Madagascar.
D'accord, c'était un livre qui était écrit par un auteur à Madagascar.
Un Africain, non, on est au terre africain, je crois.
D'accord, très bien.
Le livre, il vient d'Afrique.
Ouais. Et vous n'aviez pas tellement de choix à l'époque. Je me permets de faire un lien avec votre génération et votre âge, hein, comme vous avez donné votre âge au standard. À l'époque, vous n'aviez pas tellement de choix, non, de héros à Madagascar.
Il y en a, mais bon, il y a des livres qui viennent de France et tout ça, parce que pendant ce temps-là, il y a quand même pas mal de livres. Mais ce coucou-là, ça m'a marqué parce que quand on a lu ça et tout ça, c'est la vie qu'on a vécue dans la brousse.
C'est ça. Donc là, c'était.
Ça nous a pris.
C'est l'environnement qui permettait l'identification. On est bien d'accord.
Voilà, c'est l'environnement et c'est le garçon, parce que le petit garçon, en fait, ça m'a appris à vivre comment il y a des hauts et des bas dans la vie déjà. Et il faut respecter les grands et tout ça. Et c'est lui qui a écrit cet livre-là, je l'admire beaucoup parce qu'il a su comment en transmettre aux enfants la vie dans le futur, en fait. Ça m'a marqué, ça.
Une ligne de conduite, finalement.
Voilà, c'est comme quoi que bon, il faut respecter les anciens et tout ça, et ça m'a bien aidé.
Merci à vous, Jimmy, de nous avoir appelé en direct au 33 1 84 22 71 71. Vous pouvez continuer à nous téléphoner. Delphine Solière d'Izarnière, dites-nous comment est conçue la collection pour le continent africain chez Bayard Jeunesse.
Alors, c'est une structure qui est très proche, voilà, ça s'appelle Planète J'aime lire, et c'est une structure qui est assez proche de nos magazines français, c'est-à-dire qu'on a en majeur une grande histoire, parce que finalement, découvrir la vie à travers une fiction, c'est une façon tout à fait intéressante d'apprendre à grandir, et puis aussi d'apprendre à lire. Mais on a aussi... toujours cette préoccupation de s'ancrer dans le réel des enfants. Donc, on a choisi d'avoir une petite rubrique qui s'appelle « Et en vrai », où on montre quelque chose. C'est un petit article documentaire sur une des pointes de l'histoire. Qu'elle soit... Donc, nos histoires, en fait, couvrent tous les continents. On a une partie d'histoire africaine, mais on a aussi envie de présenter des histoires qui se passent autour du monde, dans Planète J'aime lire. Et puis, on propose aussi des jeux, parce que jouer avec les mots, avec le langage, c'est une bonne
façon.
Il y a une
dimension éducative, comme souvent, chez Bayard Jeunesse.
Est importante.
Mais les auteurs, alors, comment vous choisissez les auteurs? Ce sont des auteurs
Alors, il y a des auteurs, il y a des auteurs français et des auteurs africains. On a un de nos auteurs qui est rédacteur en chef, qui s'appelle Dosilek Polo, qui vient de publier sa première histoire pour les petits. Donc, c'est une émotion, je pense, qu'il nous écoute aujourd'hui.
Mais par exemple, il faut sauver Eno.
Alors ça, c'est un auteur français.
Ouais. Alors là, c'est l'histoire d'un chimpanzé. Il y a des jeunes dans les villes africaines qui vont vous dire « mais c'est un cliché, nous, on n'a jamais vu de singe de notre vie ».
Alors, ça dépend d'où ça se passe. Ça, c'est une histoire qui est une histoire réelle, en fait, qui se passe plutôt en Afrique centrale, d'ailleurs. L'idée, c'était d'accompagner toute une opération qu'on fait autour de la prévention et la protection de la planète. Et donc, on voulait montrer que le trafic des animaux était quelque chose qui était très important, même dans les familles.
Mais le fait de vouloir le raconter à un public d'Africains, est-ce que c'est pas du cliché?
Alors ça, c'était d'abord été raconté à un public français, en fait. Voilà. Et en fait, il y a un certain nombre d'histoires que le magazine Planète J'aime lire reprend, qui ont déjà été publiées en France. Et c'est un choix qu'on fait avec la rédaction de se dire, est-ce que cette histoire, elle passe ou elle passe pas?
Alors par contre, c'est vrai que dans les illustrations, c'est adapté à l'environnement. On retrouve des métiers, des artisans, etc., qu'on retrouve dans les villes africaines. Hein. Et ça peut permettre aux enfants de s'identifier. Les illustrations, justement, pour vous, Laurent Safo et Madina Guisset, le choix de l'illustratrice, est-ce que pour vous, c'était déterminant que l'illustratrice colle complètement à ce que vous aviez envie de raconter sur votre diversité, Madina Guisset?
Ah oui, clairement oui. En plus, moi, je me suis auto-éditée, donc du coup, le choix me revenait. Et c'est vrai que moi, j'avais surtout envie, besoin d'une illustratrice qui respecte un petit peu, qui prenne en considération la carnation, qui prenne en considération le fait de pas avoir des cheveux en antenne ou ce genre de choses. Et donc oui, effectivement, le choix était capital. Ouais.
On est en ligne maintenant avec Céline Hein de l'UNICEF France, parce que c'est le salon de littérature de jeunesse de Montreuil qui s'est ouvert hier. Et je voudrais qu'on vous donne la parole, Céline Hein, bonjour, vous êtes bien en ligne avec nous?
Oui, bonjour, je suis en ligne avec vous.
C'est la troisième édition du prix UNICEF de littérature. La thématique portée cette année sur les réfugiés et les migrants, c'est évidemment une thématique ô combien centrale pour l'UNICEF. Vous récompensez des enfants, des lycéens qui ont participé à ce concours d'écriture, c'est bien ça ?
Alors, nous avions donc deux opérations en parallèle cette année. Nous avions un prix de littérature jeunesse qui s'adressait, lui, aux enfants de 3 à 15 ans. Et puis, en parallèle à cela, un concours d'écriture pour les 15-20 ans cette année.
Et alors, concernant le prix de littérature, là, il y avait des enfants dans le jury.
Tout à fait, tout à fait. Donc, en fait, il y avait deux phases de jury. Une phase de présélection dans laquelle donc, nous avions des enfants et aussi des adultes experts de littérature jeunesse qui nous ont aidés à présélectionner des ouvrages. Et puis, ce sont des enfants dans toute la France qui ont voté. 3600, pour être un peu plus exact, qui ont voté pour leur livre préféré.
Énorme. Est-ce que ça a de quoi parfois surprendre les adultes, la façon dont les enfants parlent eux-mêmes de ce qu'ils aiment lire ?
Oui, tout à fait. Nous avons eu de nombreux moments dans lesquels nous n'étions pas vraiment d'accord entre adultes et enfants sur ce qui peut séduire les jeunes. Ce cas-là, nous avons essayé de trouver des compromis entre les textes qui plaisaient aux deux.
Ah oui, pourquoi ?
Souvent, les enfants sont sensibles à des choses auxquelles on ne pense pas. Souvent, ce sont des histoires d'animaux, par exemple, qui leur plaisent beaucoup.
Oui.
Alors que nous, on est un peu plus attachés au fond, au message, à la thématique. Surtout quand ce sont des thématiques un peu difficiles, comme celle de cette année,
ouais,
sur mais les enfants réfugiés migrants.
Évidemment, c'est toute la problématique. Les adultes aimeraient bien que la littérature de jeunesse est une dimension utile. Mmh. Et d'ailleurs, là, on a des auteurs. Il y a une dimension quand même message dans vos histoires. Mmh. Mais il y a aussi une partie des enfants qui veulent des histoires complètement abracadabrantesques, comme on dit, qui n'ont ni queue ni tête. Et qui n'ont aucun message à part
mais
la création pure.
Je pense vraiment qu'il y a quand même. C'est pour ça que tout à l'heure je disais oui et non, parce que je parle vraiment du principe que n'importe quel livre jeunesse, sachant que c'est le premier média auquel un enfant a accès, en général, que ce soit dans l'école ou pas, ça a un message. Donc peut-être que ça aura un écho différent. Peut-être qu'il y a des messages plus engagés que d'autres. Peut-être qu'il y a des messages, mais dans n'importe quel livre, un enfant a quelque chose à en retirer. En fait.
Tout à fait.
Rendez-vous en tout cas pour l'UNICEF l'année prochaine, hein, pour l'ouverture aussi du prochain concours qui va être annoncé dès janvier, hein, pour le concours d'écriture où il y a deux catégories. Hein, c'est bien ça, Céline Haïn, pour voilà, les slameurs et puis les nouvelles. Merci à vous d'avoir été en ligne avec nous, Céline Haïn de l'UNICEF France. Dans quelques instants, on donne la parole à, non pas une auteure de jeunesse, mais une illustratrice pour coloriage, Yeni Djidi.
7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins, c'est 7 milliards de solutions possibles.
Communiquons le plus possible.
Plus qu'une émission, c'est devenu une famille.
Tout part d'un rêve, tout part d'un rêve.
C'est 7 milliards de cœurs qui se mettent en commun pour n'en former qu'un seul.
On termine l'émission en donnant la parole à Yeni Djidi, à 30 ans, cette mère de deux enfants et blogueuse à la base, écrivain, scénariste. En 2013, elle crée Livresque, c'est un événement littéraire qui se tient tous les deux mois avec un auteur. Livresque, c'est aussi le nom de son agence littéraire depuis 2016. Et puis l'année dernière, elle a sorti un livre de coloriage qui valorise les tenues traditionnelles. Elle est en Côte d'Ivoire, elle voulait s'adresser aux enfants et aborder la culture africaine. Le tome 2 est sur le point de sortir, très gros succès. Floralement l'a rencontré.
J'ai eu à rencontrer des personnes qui m'ont dit, bon, une fois on a vu que tu as fait un débat sur les réseaux sociaux, comment est-ce que l'industrie du livre peut s'inspirer de l'industrie de la musique pour essayer de se renouveler et tout, et si tu en faisais un article. Et quand j'ai fini l'article, ils m'ont dit, c'était une radio néerlandaise, ils m'ont dit, ah mais ton article était très bien, et si tu essayais de créer le concept dont tu as parlé dans l'article. Bon, finalement, c'est comme ça que Livresque est né, donc un café littéraire assez innovant où on écoute de la musique live, où on fait des jeux, on s'échange des livres en fait entre participants, donc c'est gratuit. On reçoit un auteur avec qui on échange et tout. Et on a déjà fait 26 éditions. Et puis après, il y a les ateliers d'écriture aussi que j'utilise pour pouvoir encourager les gens à s'intéresser à l'écriture. Et après, il y a eu 225nouvelles.com qui est un site internet qui permet de promouvoir l'actualité littéraire ivoirienne et aussi de donner un espace aux jeunes plumes qui veulent exercer leur talent en fait.
La littérature ivoirienne, comment elle se porte ?
On va dire qu'il y a des genres qui marchent vraiment, vraiment bien. Pour les puristes, on dit que c'est pas vraiment de la littérature, c'est de la paralittérature.
C'est quoi la paralittérature?
Ils te diront que c'est pas une littérature où les mots sont vraiment recherchés. En fait, c'est une littérature qui parle du quotidien des gens, où les gens se reconnaissent.
C'est pas une littérature en nouchi?
Un peu parfois de nouchi, mais pas vraiment. C'est, on va dire, le français courant qu'on parle dans la rue. Mais c'est une littérature qui a beaucoup d'adeptes. Je pense qu'il faut quand même féliciter ces auteurs-là qui arrivent à drainer du monde, alors qu'on dit que les gens n'aiment pas lire, en fait. Maintenant, le tout, c'est d'encourager la population à lire ce genre de livres et aussi à aller au-delà.
C'est la vie de maman qui vous a donné envie de créer ce livre de coloriage, encore une corde à votre arc.
Je dirais oui, la vie de maman, mais aussi le fait que j'ai des sœurs et des frères qui ont également des enfants, donc on se demande comment les occuper. Et parfois, il y a des activités de coloriage à faire ensemble, ou bien de la peinture et tout. Et au moment de faire ces activités de coloriage, on se rend compte que les livres qui sont là sont des dérivés de dessins animés occidentaux ou même asiatiques. Et je vais dans une librairie, je me dis, bon, je vais chercher un livre qui est un peu plus africain, par exemple. Et je passe en revue près de 70 titres, il n'y a aucun. Et là, je me dis, ben, il y a quelque chose à exploiter. J'avoue que ce livre-là, je ne m'attendais pas à autant de succès.
Ça veut dire combien de ventes?
Alors là, je suis à la 4e réédition. Donc, on va dire un peu plus de 3000 exemplaires. Oui, j'ai eu envie même de laisser tomber les livres pour adultes. Et le concept qui a fait que ça a beaucoup marché aussi, c'est que quand je vais faire les dédicaces, je m'habille en tenue traditionnelle. Les gens viennent. Parfois, il y en a qui n'ont pas vraiment envie d'acheter, mais ils veulent faire la photo avec moi. Donc, quand ils finissent la photo, ils sont un peu gênés, ils achètent. Après, ils reviennent. Ah, mais j'ai acheté pour mon fils. Ma nièce aussi dit qu'elle en veut. Là, on prépare le tome 2 pour novembre-décembre 2018.
Et donc, à l'intérieur, on peut le voir. Donc, il y a une partie qui est colorée déjà, où c'est marqué « Je regarde ». Il y a un personnage, donc en habit traditionnel. En dessous, on nous explique que c'est la tenue gourou.
Et donc, comme je dis, on n'a pas voulu rentrer dans trop de détails au niveau de l'explication des tenues, mais c'est surtout un prétexte pour que les parents puissent approfondir la thématique de la culture, en fait, avec leurs enfants. Et aujourd'hui, on remarque que de plus en plus d'enfants ne vont pas au village, ne connaissent pas leur langue maternelle et tout. Donc, les parents ont envie de jouer éducatif, donc le côté ludique certes, mais en même temps éducatif sur les cultures.
Le tome 2, ça sera quoi du coup la thématique?
On n'a pas voulu se focaliser sur un pays, mais sur plusieurs pays. Alors le tome 2, il sera panafricain. Au lieu de mettre ces petits textes-là, on va mettre une page de proverbes en fait issus de différents pays africains.
Yeni Gigi a retrouvé sur internet ces fameux coloriages. On prend une dernière auditrice sur la thématique de l'identification. Les enfants ont-ils besoin de héros qui leur ressemblent pour grandir? Bibi nous appelle de Kinshasa. Vous avez 24 ans. Bonjour Bibi.
Bonjour Emmanuel.
Alors
bonjour,
vous êtes une fille. Vous êtes une fille et vous vous êtes identifiée énormément à des héros de manga japonais, je crois.
Oui, et c'est Nicky Larson et tout.
Ouais. Alors c'est qui ce Nicky Larson? Rafraîchissez-nous la mémoire.
Nicky, c'est un homme qui vit avec la petite sœur de son meilleur ami qui était mort apparemment.
Ouais.
Elle s'appelle Laura. Et il est engagé comme garde du corps personnel. C'est ce qu'il fait comme métier.
Et pourquoi ce héros-là, vous vous êtes identifié à lui, vous, Bibi, à Kinshasa?
J'ai grandi en Libye avec mes parents en tant que diplomate et tout.
Oui.
Donc, je suivais beaucoup de mangas.
Oui.
Et Nicky Larson, lui, c'est l'homme que j'ai rêvé au fait d'avoir. Un homme en même temps fort.
Ça. Et vous ne l'avez pas encore trouvé, votre Nicky Larson, c'est ça?
Si, je l'ai déjà trouvé. Je pense que je l'ai trouvé.
Ah,
il
oui.
est drôle et il est fort. Il me convient parfaitement.
D'accord, fantastique. Vous avez épousé le héros de votre jeunesse. Eh ben, ça, c'est extraordinaire. Un commentaire, mesdames?
Non, on disait justement que Nicky Larson, ça nous avait un peu toutes bercées parce qu'il passait à l'époque du Club Dorothée en dessin animé. Et c'est vrai que c'était beaucoup plus aseptisé que les mangas, mais on disait que la force du manga, c'est que ça transcende énormément de cultures, énormément d'époques. Et c'est fascinant. Moi, je trouve ça vraiment fascinant.
Le manga, on en discutait, Delphine Solière-Dizarni, c'est vraiment une façon de dessiner, de représenter le physique des personnages très particulière.
C'est très particulier et ça crée une capillarité très forte parmi tous les illustrateurs autour du monde. On voit énormément d'inspiration dans ce travail-là. En fait, c'est très professionnel le manga. C'est construit d'une manière très précise et du coup, ça crée des générations d'auteurs et d'illustrateurs très particuliers, particulièrement aussi dans le dessin animé.
Eh bien, merci en tout cas, merci à cette dernière voisine, merci à vous toutes, Laurane Safou. Donc vous publiez Comme un million de papillons noirs aux éditions Cambourakis, Madina Guisset, Neiba, Je sais tout ou presque. C'est la série aux éditions La Comtesse d'Aventure. Les deux premiers tomes sont sortis et il y en aura d'autres. Delphine Solière-Dizarni, rédactrice en chef aux éditions Bayard Jeunesse, merci à vous d'être venue et d'être passée par le studio. Et merci à toute l'équipe, Sigrid Azéroal, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Didier Cherouz. Demain, 7 milliards de voisins, vous avez la parole sur l'augmentation des frais d'inscription dans les universités françaises pour les étudiants non européens. Le prix d'une année a été multiplié par 15. Il faudra désormais débourser pour une année de master 3 770 €. Qu'en pensez-vous si vous êtes concerné par le sujet ? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71.